Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une deuxième émission sur Radio Présence pour suivre l'école d'oraison avec les carmes du couvent de Toulouse. Nous avons vu la semaine dernière pourquoi il était important de prier et quelles étaient les différentes formes de prière. Nous découvrons aujourd'hui pourquoi l'oraison est l'élément fondamental de toute forme de prière et quelles en sont ses origines. Et pour cette deuxième séance de l'école d'oraison, nous sommes avec le frère Benoît-Marie. Bonjour frère.
Bonjour à vous.
Vous êtes ce deuxième intervenant. Nous avons vu lors de la première émission les différentes formes de prière, l'adoration, la demande, l'action de grâce, la louange et l'intercession. Et vous voulez nous préciser qu'il y a quand même plusieurs manières de prier.
Oui, oui. Il y a plusieurs manières de prier. Il y a la forme liturgique, communautaire, où on s'exprime au Seigneur avec des mots, avec des attitudes partagées par tout un corps.
Et des chants aussi, alors.
Et des chants. Et donc, c'est une prière, communautaire et parler ou chanter. Et puis, il y a plein d'autres formes de prière où ce sont des formes de prière plus solitaires ou qui peuvent être solitaires ou communautaires comme le chapelet. Il y a, pour les moines, la Lectio Divina qui est une méditation de la parole de Dieu. Et puis, il y a... Je les cite pêle-mêle, sans être exhaustif. Il y a aussi l'adoration. L'adoration, c'est l'Église qui rend un culte à son Seigneur, présent sous les saintes espèces. Et puis, dans ces différentes formes de prière, il y en a une bien particulière, qui est une forme de prière à la fois silencieuse, c'est une oraison mentale, dit-on, et qui peut être communautaire, mais qui est pratiquée souvent de manière solitaire, toute l'Église.
Elle est communautaire parce que les personnes peuvent être côte à côte,
exactement,
mais sans communiquer.
Voilà, et elle est communautaire parce que toute prière de toute personne baptisée est en communion avec toute l'Église. Quand un membre prie, toute l'Église prie. Mais dans sa matérialité, elle est souvent solitaire, en communion mystique avec l'Église, mais physiquement solitaire. Et c'est cette forme d'oraison que Thérèse d'Avila a pratiquée, a développée et a reçu la mission de propager dans l'Église.
Et si on se met avant Thérèse d'Avila, est-ce qu'il y avait déjà une forme d'oraison dans l'Église ?
Oui, jusqu'au XIVe, XVe siècle, vraiment la prière était essentiellement la liturgie. Hein, c'était une prière ecclésiale, communautaire, on pourrait dire objective. À la messe, par exemple, le credo était proclamé, tout le monde disait Amen. On adhérait à un contenu de foi et on honorait ce Seigneur ensemble. Et puis, il y a eu un courant qu'on appelle la Devotio Moderna, qui est né aux Pays-Bas, au XVe siècle, et qui a voulu nouer une relation plus personnelle avec le Seigneur. Et ça va s'accompagner dans l'art, hein, d'une mise en évidence de la personne dans l'art. Et il y a une espèce de personnalisme.
De la personne de qui ?
De la personne, par exemple, du Christ.
Oui.
On va plus regarder les choses depuis la terre que depuis le ciel. Et dans la prière, c'est un peu la même chose. On va vouloir s'approprier cette relation avec le Seigneur à laquelle on communie pour l'instant dans une foi communautaire. Voilà.
Et ce qui ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas présent dans cette foi communautaire.
Il est évidemment présent, il n'y a pas d'exclusion. Et ça va être justement un des enjeux de ce courant de la Devotio Moderna, de ne pas exclure la prière de l'Église institutionnelle pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et voilà, ce mouvement a été très fort. Aux Pays-Bas, qui était en lien avec l'Espagne, évidemment.
Oui.
Donc, ça a gagné l'Espagne. Et Thérèse d'Avila est née dans ce développement de cette oraison personnelle, informelle.
De la terre au ciel, alors.
De la terre au ciel. Et elle va, en pratiquant cette oraison, nouer une relation d'amitié extrêmement forte avec le Seigneur et qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle en parle et qu'et Thérèse d'Avila va se mettre va propager et va assurer les fondements de cette prière, notamment en montrant que cette prière est complètement compatible avec la prière de l'Église institutionnelle.
Et est-ce qu'elle a été bien reçue ?
Non, elle n'a pas été très bien reçue au début. Hein, il y avait pas mal de... L'Inquisition était très regardante là-dessus, parce que justement, il faut comprendre aussi l'Inquisition. Parce que justement, un certain nombre d'adeptes de cette oraison mentale en profitaient non seulement pour prier seul, mais pour exclure le contenu objectif de la foi catholique. Et Thérèse d'Avila va procéder à un exercice de très haute voltige en écrivant son chemin de perfection, son livre Le chemin de perfection, dans lequel, à partir du chapitre 23 ou 27, je ne sais plus, eh bien, elle va parler de cette prière personnelle, éminemment personnelle, en disant que cette prière peut et doit s'enraciner dans le Notre Père. Le Notre Père qui est non seulement la prière traditionnelle de l'Église, mais qui vient du Seigneur lui-même. Donc elle va réussir à ce tour de passe-passe,
c'est ça, oui,
de montrer que eh bien, l'oraison est profondément reliée au Seigneur et à l'Église, et qu'elle n'exclut absolument pas la foi professée par l'Église.
Et en fait, elle a écrit ce texte, comme vous dites, ce tour de passe-passe, oui, dans cet ouvrage, Le chemin de perfection. C'était à la demande de ses sœurs pour les aider à prier.
Voilà, et puis de ses pères spirituels.
Et de ses pères spirituels.
Voilà. Donc elle n'a pas écrit d'elle-même. Le chemin de perfection, c'est effectivement pour promouvoir le condensé de ce qu'elle veut léguer à ses sœurs. Dans sa deuxième partie, eh bien justement, la manière de faire oraison, qui est vraiment la marque du Carmel. Hein, vous savez qu'au Carmel, chez les carmélites comme chez les carmes, eh bien, nous prions au moins 2 heures par jour par cette oraison mentale. Et donc Thérèse d'Avila veut léguer le
cet héritage et ce cœur
à ses sœurs.
Oui, oui. Comment se fait-il que, puisque Thérèse d'Avila reprend le Notre Père, qui est quand même considéré comme une prière vocale, comment ça se fait qu'elle soit considérée comme une oraison ?
Parce que dans le Notre Père, déjà, il y a une adresse personnelle au Père, dans la personne du Fils, puisque c'est la prière de Jésus.
Oui,
on est en fait le Père et notre
par
Père,
Christ.
Parce que le Père est le Père de Jésus et qu'on participe à cette filialité par la grâce. Voilà. Et parce que donc justement dans ce Notre Père, Thérèse montre que on doit se recueillir pour aller au fond de nous-mêmes et considérer Jésus qui est présent par sa grâce, et puis poser un acte de foi. Et en fait, Thérèse nous dit, dans le Notre Père, vous avez tout ce qu'il faut pour faire oraison, et notamment ces 3 temps, je dirais, incompressibles de l'oraison, qui sont le recueillement. Le recueillement, je fuis l'extériorité de mon être, je fuis les sollicitations sensibles, pour aller vers l'intérieur, vers la substance de mon âme, où Dieu est présent par sa grâce. Et là, deuxième étape de cette oraison, eh bien, je me mets, dit Thérèse, à considérer fréquemment Jésus dont je me sais tant aimé. Et puis, cette considération aboutit en l'acte de foi, l'acte de foi aimante. C'est, vous savez, la foi, c'est cette vertu théologale qu'on reçoit au baptême et sans laquelle on ne peut pas se proportionner à l'infinité et à la sainteté de Dieu. Il faut ce don que l'on reçoit de manière embryonnaire au baptême pour avoir cet appareil de communication entre le ciel, entre la terre, nous et le ciel.
Mmh. Voilà, et cet acte de foi, c'est un acte à poser à chaque prière finalement.
Oui, s'il n'y a pas d'acte de foi, il n'y a pas de prière. Parce que, si vous voulez, la foi, ce sont nos lunettes pour pouvoir entrer en relation avec le Seigneur. Vous avez besoin de lunettes pour voir autour de vous quand vous voyez mal. Eh bien, nous, l'humanité, on est comme incapable de nous élever à Dieu. Et donc, il faut que le Seigneur nous donne ce moyen de la foi que nous développons, dont nous usons, eh bien, pour rentrer en communion avec lui.
Mmh. Et ces trois moyens que donne Thérèse d'Avila, donc pour l'oraison, se recueillir à l'intérieur de soi-même, considérer celui à qui je parle, et puis cet acte de foi, finalement, on pourrait l'appliquer à d'autres prières que notre
oui,
Père.
Et c'est ce que veut montrer Thérèse d'Avila, c'est que non seulement la prière personnelle et l'oraison sont compatibles avec la prière de l'Église institutionnelle, la prière liturgique, la prière communautaire, mais elle est présente. Elle est présente à cette forme de prière, elle en est l'élément fondamental. Et Thérèse va dire, en fait, s'il n'y a pas de recueillement, de considération et d'acte de foi, il n'y a pas de prière. Donc ce qui est génial avec Thérèse, c'est qu'elle nous dit finalement, l'oraison, vous ne pouvez pas la condamner, non seulement parce qu'elle est compatible avec la foi de l'Église, mais parce qu'elle est la forme de toute relation personnelle avec Jésus, y compris dans une prière liturgique. Je suis amené à nouer une relation personnelle avec Jésus, avec un recueillement, une considération, un acte de foi. Voilà.
Ce qui n'est pas forcément évident, par exemple, à la messe, parce qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit.
Eh bien alors, c'est une messe qui n'est pas bien célébrée, ou bien parce que la messe, c'est la liturgie fixe, justement, par des rites, par des sollicitations de la sensibilité. Elle fixe la sensibilité pour l'emmener à l'intérieur. C'est la vocation de la liturgie, de prendre les sens. Vous voyez, le chant grégorien, il prend les sens, mais il les emmène vers l'intérieur. Et peut-être que quand on ne fait pas comme ça, quand on laisse la sensibilité, quand on excite la sensibilité simplement et qu'on ne l'amène pas dans la liturgie à aller vers l'intérieur, peut-être qu'on rate tout en fait. On rate ce recueillement, on rate cette considération de Jésus et on rend plus difficile l'acte de foi.
Concrètement, frère Benoît-Marie, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans la prière d'oraison qu'a voulu expliquer Thérèse d'Avila, comment elle met en œuvre chacune de ces trois étapes?
Alors,
ou comment vous les mettez en œuvre, en fait, c'est...
Eh bien, en pratiquant. En fait, toute doctrine carmélitaine, à commencer par celle de Thérèse d'Avila, a un but pratique. Ce qui importe Thérèse d'Avila comme le carme ou la carmélite, comme le carme qui enseigne, qui anime une école d'oraison, c'est que les participants, non seulement comprennent les principes, mais les mettent en œuvre.
Oui.
Et c'est vraiment, je trouve, la spécificité du Carmel, de réfléchir toujours dans une visée pratique, ce qui fait aussi sa limite. Mais donc Thérèse d'Avila va vous dire, si vous voulez faire comprendre l'oraison, comment mettre en œuvre les trois étapes de l'oraison, eh bien, c'est en s'y mettant. C'est demain matin, en mettant votre réveil une demi-heure plus tôt, en lisant la parole de Dieu, en vous recueillant grâce à elle, en vous laissant regarder par Jésus, en le considérant et en vous laissant considérer, et en posant un acte de foi répété. Donc c'est la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, bien sûr toujours soutenu par la grâce de Dieu.
Mais qu'il faut solliciter alors.
Mais oui, et Thérèse d'Avila nous dit, en accord avec les grands principes de la théologie la plus classique, elle nous dit, attention, la première partie de la vie de prière sollicite beaucoup d'efforts de notre part. Et requiert une détermination muy determinada, une détermination très déterminée. Parce que, à l'échelle microscopique, la grâce est là comme en second, mais c'est à l'âme de prendre l'initiative, soutenue par l'Esprit-Saint, mais la perception de l'Esprit-Saint est très faible. Et c'est simplement dans la deuxième partie de la vie spirituelle que là, après avoir dit dans la première partie « Seigneur, prends les rênes », que l'Esprit-Saint prend les rênes, et qu'à ce moment-là, les choses deviennent plus faciles. Et les frais de la course, dirait Thérèse d'Avila, sont pour l'Esprit-Saint. Nous, on n'a plus qu'à suivre, en très gros.
Et est-ce que nécessairement, il faut invoquer l'Esprit-Saint au début de sa prière et l'invoquer jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'être détaché de ses distractions, par exemple?
Alors, on invoque l'Esprit-Saint à coup sûr parce que c'est lui qui nous met, qui nous met en relation avec Dieu. Ici-bas, c'est l'Esprit-Saint qui nous unit au Christ et le Christ qui nous unit au Père. Donc, forcément, voilà. Après, au Carmel, on se méfie beaucoup de ce que l'on peut percevoir de son état de calme Donc je dirais non, on n'attend pas d'avoir trouvé la paix psychologique ultime.
On n'est pas dans une démarche zen. Hein.
On n'est pas du tout dans une démarche zen, parce que d'ailleurs c'est l'acte de foi, encore une fois, qui est un acte spirituel, donc insensible, qui nous met en relation avec le Seigneur. Et il se peut que dans notre raison, eh bien, nous ayons eu 3 000 papillons après lesquels courir, mais... en étant revenu à chaque fois à notre acte de foi, il se peut que dans une oraison aussi désagréable et d'apparence aussi
laborieuse,
eh bien, on ait été unis avec Jésus beaucoup plus que dans une prière où notre détente psychologique était maximale. Ce qui compte, c'est l'acte de foi. Et l'acte de foi, encore une fois, ça ne se sent pas. Donc si je reviens à Jésus à chacune de mes distractions en posant un acte de foi, je suis peut-être uni à Jésus comme jamais.
Mmh. Et concrètement, poser cet acte de foi, c'est dire quoi à Jésus dans sa prière ?
Eh bien, c'est Thérèse insiste pour dire qu'on croit et on aime, ou on croit pour aimer. Donc, c'est lui dire, Jésus, je t'aime ou je vous aime infiniment, personnellement, tendrement. Je sais que vous m'aimez. Non, d'ailleurs, c'est « Je sais que vous m'aimez infiniment, personnellement, tendrement, et moi, je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. » Parce que moi, je ne suis pas Dieu.
Oui, ça, c'est une bonne formule à garder.
Donc, voilà, je sais ou je crois que tu m'aimes infiniment, personnellement, tendrement, et moi, je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. Voilà. Et puis, quand les choses se simplifient au fur et à mesure de la vie de prière, eh bien, les vieux frères ou les vieilles sœurs ont leur formule très courte, « Jésus ». À un moment donné, on veut se passer de mots. On veut Dieu le plus immédiatement possible, y compris dans la prière. Et on va répéter comme Jeanne d'Arc, Jésus, Jésus.
Mmh. Voilà. C'est comme cette prière du Notre Père où certains disent qu'il s'arrête à Notre Père.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est la relation. Les mots sont là pour nous aider à entrer en relation avec le Seigneur. Mais quand on l'a, eh bien, on veut que lui.
Comment ça a évolué après que Sainte Thérèse ait fait le lien entre l'oraison et Notre Père? Comment l'Église a accepté tout
ça? L'Église, grâce à Sainte Thérèse, l'a bien accepté, parce que ça a été finalement l'oraison qui menaçait de partir dans l'hérésie, a été comme blanchie et comme intégrée au patrimoine spirituel de l'Église. D'autant que l'Église comprend que c'est vraiment... la forme fondamentale de toute prière. Et donc, elle a déclaré Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, en tant que mère des spirituels, donc habilitée à parler à toute l'Église et pour toujours, eh bien, de la manière d'entrer en relation avec le Seigneur. Voilà. Donc voilà, je dirais, pour répondre à votre question en résumé, la déclaration de Thérèse comme docteur de l'Église, sa reconnaissance comme docteur de l'Église, ben voilà, c'est la canonisation ou la reconnaissance officielle de non seulement de l'importance de l'oraison, mais de sa nécessité, monnayée selon des formes propres à chacun.
Mmh. Et ça s'est fait quand, cette reconnaissance comme docteur de l'Église de Sainte Thérèse d'Avila?
Alors, j'ai des problèmes
en
de date.
En gros, ou quel siècle?
Je ne sais plus.
Bon, alors, c'est pas grave. On invite les auditeurs à rechercher dans leur...
Le doctorat de Thérèse d'Avila, mes frères le sauraient mieux que moi, mais oui. J'ai pas retenu.
D'accord.
Ce que je sais, c'est que après, le XVIIe siècle a eu des grands saints et des docteurs de l'Église comme saint François de Sales, qui ont lu abondamment Thérèse d'Avila et qui ont continué intégrer le patrimoine de Thérèse et l'oraison mentale dans leur vie et auprès des chrétiens. Il ne faut pas oublier que saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, a pour la première fois, en langage simple, vulgarisé la foi, non seulement dans son objectivité, mais dans sa relationnalité. Il a dit comment il fallait prier.
Oui, et il s'adressait à des laïcs aussi.
À des laïcs, à ceux qui dansaient, à ceux qui étaient au chant, à ceux qui étaient au cloître. Mm. Et donc, la doctrine de Thérèse d'Avila sur l'oraison a été répercutée, notamment dans l'école française, par saint François de Sales, donc 17e siècle après elle. Et puis, dans toutes les autres formes de prière, plus ou moins, mais elle a eu un écho. Elle a quand même été en compagnonnage étroit avec un autre saint éminent qui est saint Jean de la Croix, qui aussi a, dans tous les ordres monastiques, élu En Chartreuse, on lit Saint Jean de la Croix. Dans la vie monastique, cénobitique, idem. Donc, voilà, soit directement, soit par le truchement d'acolytes comme Saint Jean de la Croix ou d'héritiers plus ou moins conscients comme Saint François de Sales, eh bien, l'oraison a pris place dans l'Église. Et je pense que ben voilà, ces écoles d'oraison sont le fruit lointain, mais bien vivant de cette oraison.
Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que c'est l'apanage propre des carmes de transmettre ce savoir-faire, entre guillemets, de l'école d'oraison,
oui,
ou pas seulement ?
Oui, pas seulement, parce que le carme a un triptyque. Hein, il prie d'abord pour l'Église, ensuite il confesse, la relation au confessionnal est très importante pour le carme, et puis il prêche sur l'oraison. Parce qu'il passe quand même beaucoup de temps et à prier et à travailler en cellule sur l'oraison, sur les lois de la vie mystique qu'ont mises en évidence Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Puis il y a aussi dans leur genre Élisabeth de la Trinité, la petite Thérèse, etc. Marie-Eugène.
Et Marie-Eugène, et j'invite les auditeurs de Radio Présence à retrouver toutes ces émissions que nous avons faites depuis septembre dernier sur les grands saints du Carmel. Je vous propose, frère Benoît-Marie, de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons Nada Tétourbé d'après un poème écrit par Sainte Thérèse d'Avila.
Présence.
Église, Isabelle Duché.
La prière d'oraison, comment a-t-elle évolué au cours des siècles? Quel lien entre l'oraison et l'Eucharistie? C'est la deuxième étape de l'école d'oraison que nous vous proposons aujourd'hui sur Radio Présence avec le frère Benoît-Marie Carme au couvent de Toulouse. Vous nous avez parlé, frère Benoît-Marie, de Sainte Thérèse d'Avila qui a proposé à l'Église l'oraison avec ces trois points, se recueillir à l'intérieur de soi-même, considérer celui à qui je parle et puis nouer un contact avec lui dans un acte de foi. Que dit Sainte Thérèse d'Avila de l'Eucharistie ?
Pour l'Eucharistie, pour Thérèse d'Avila, l'Eucharistie est vraiment, comme dit le Concile, le sommet de l'Église et de la vie de prière.
Sur ces sommets de la vie chrétienne.
Ouais. Et elle a, Thérèse, un très très vif sentiment de la présence réelle de Jésus sous les saintes espèces. Et elle dit ceci dans le
chemin de Thérèse. C'est une grâce, ça, quand même. Hein?
Ah, c'est une grâce. Mm. Oui, c'est une grâce particulière. Et elle dit, il y a autant de différence entre un portrait et la personne qu'entre la personne de Jésus dans l'Eucharistie et la représentation mentale que nous en avons. Donc, pour elle, et là, elle fait sienne complètement la foi de l'Église qui sera formalisée par le Concile de Trente, qui dit que dans l'Eucharistie, il n'y a pas simplement la grâce, il y a l'auteur de la grâce. Dans l'Eucharistie, il y a Jésus, vrai Dieu, vrai homme, crucifié par amour pour nous, ressuscité, glorifié et siégeant à la droite du Père. Il y a vraiment une... On balbutie devant ce mystère, mais il y a une densité de présence du Seigneur qui est extrême et qui est d'une certaine manière plus grande que dans d'autres sacrements. C'est pas très théologique, mais il y a quelque chose en plus dans l'Eucharistie qu'il n'y a pas dans les autres sacrements. Et Thérèse d'Avila se dit, voilà, l'Eucharistie, c'est là où est présent le Jésus en plénitude. Et moi qui aime infiniment Jésus, je veux l'accueillir là où il est le plus présent. Donc elle aura une très grande attention à la messe et à la communion, où Jésus vraiment se donne à nous. Et puis ensuite, dans l'action de grâce, c'est-à-dire qu'elle va vouloir prolonger, on apprenait aux enfants du catéchisme, cette intimité, ce cœur à cœur avec le Seigneur dans l'action de grâce. Et vous savez, tant que les saintes espèces sont présentes, c'est-à-dire en gros entre 10 minutes et un quart d'heure, eh bien Jésus est présent. Mais quand elles sont dissoutes, eh bien par le fait même, la présence réelle de Jésus n'est plus là. Et donc Thérèse va non seulement prêter une grande attention à la messe, non seulement une très grande attention à la communion, mais aussi quand elle aura Jésus en elle-même, si je puis dire, eh bien elle va essayer de se recueillir, de considérer Jésus et de nouer des actes de foi vive, c'est-à-dire aimante. Voilà, et ce temps-là, elle va vouloir le vivre, le prolonger en dehors de la messe.
Et c'est justement l'objet de l'oraison. Avant de poursuivre, on disait que Sainte Thérèse d'Avila avait eu cette grâce de cette conscience de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Pour tous ceux qui voudraient progresser justement et dans cette connaissance et dans cette intimité avec le Christ, est-ce que là aussi c'est une grâce à demander particulièrement pendant la messe ou avant ?
Déjà, je crois que c'est une grâce d'aller régulièrement à la messe. Et c'est tout bête, c'est un peu austère, mais il n'y a que le Seigneur qui peut nous transformer à force d'Eucharistie. Donc je crois qu'il faut, on se prête simplement à sa grâce, et ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller nous prêter à sa grâce. Donc en carême, c'est idéal. En plus de la messe dominicale, pourquoi pas une ou deux autres messes hebdomadaires, où encore une fois, on est rendu contemporain du sacrifice rédempteur du Christ, et dans la messe, Jésus, dans la plénitude de son humanité, de sa divinité, se donne à nous. Et c'est lui qui va nous transformer. La réponse, c'est on y va à la messe. et on y va en s'étant préparé, en s'étant confessé, pour que la grâce eucharistique puisse porter tout son fruit. Il y a un côté un peu austère, mais l'amitié, c'est d'abord des rendez-vous assez objectifs. Hein.
Oui. C'est vrai, il n'y a pas de secret.
Il
n'y
a pas de secret. Et après, je dirais, les grands élans mystiques et la folie de l'amour, comme aurait pu dire Thérèse d'Avila, c'est quand l'Esprit-Saint s'est bien installé dans l'âme.
Oui.
Donc à force, voilà.
Alors, Thérèse d'Avila, elle voulait prolonger donc ce cœur à cœur vécu dans l'Eucharistie. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'elle a mis en place, entre guillemets, l'oraison.
Exactement. Elle veut prolonger ce cœur à cœur avec le Seigneur. Alors, il faut savoir que si Thérèse a une perception très vive de la présence eucharistique de Jésus, c'est toujours dans la foi. Hein, ça demande toujours un acte de foi. Mmh. Et là, quand
ça n'est pas sensible.
Ça n'est pas sensible, voilà. Et elle va vouloir donc prolonger cet acte de foi à l'égard de Jésus et de toute la Trinité, hein, quand les saintes espèces auront disparu. Et donc, elle va se poser la question, lui dire voilà, les saintes espèces ont disparu, mais où est Jésus pour que je m'unisse encore à lui? Eh bien, il est présent dans sa présence de grâce que l'on reçoit au baptême. Hein, le baptême nous donne à la Trinité de nous habiter, ou nous d'habiter dans la Trinité, et de rentrer en relation avec cette Trinité. Et donc, Thérèse d'Avila, eh bien, dans le recueillement, va aller chercher cette présence de la Trinité qui a été déposée en elle par le baptême, et va poser des actes de foi. Vertu aussi donnée au baptême, vertu théologale donnée au baptême. Et voilà, et elle va, si vous voulez, s'unir à Jésus présent par sa présence de grâce dans l'âme, et non plus dans son Eucharistie. Alors c'est la même présence, mais avec des modalités différentes. Mmh. Et en tout cas, elle veut continuer, quand il n'y a plus les saintes espèces, à avoir cette même qualité de relation dans la foi vive, c'est-à-dire la foi aimante, avec ce Jésus dont elle se sait aimée.
Et est-ce que nécessairement ce temps de prolongation, elle le vivait juste après la messe, ou est-ce qu'elle pouvait aussi le différer?
Alors, elle a commencé après la messe, voilà. Et puis ensuite, et dans le chemin de perfection, dans toutes ses œuvres, quand elle aura fondé ses carmels, eh bien, les carmélites à sa gouverne, eh bien, le pratiqueront plusieurs heures en dehors de la messe, après la messe, voilà. À des heures qui peuvent être très éloignées de la messe.
D'accord. Et quand vous dites que donc Jésus est présent par cet acte de foi dans l'oraison, après la communion, quand le prêtre remet les hosties consacrées dans le tabernacle, là Jésus est aussi présent.
Il est aussi présent.
Mais de quelle manière par rapport à l'oraison?
Eh bien, c'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Donc c'est l'auteur de la grâce qui est là. Mais si vous voulez, là on balbutie. Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'acte de foi que je pose, il rejoint Jésus glorieux. Or, Jésus glorieux, il est présent dans son Eucharistie de manière éminente, mais il est présent aussi en dehors, dans la présence de grâce notamment, qui est en moi par le baptême. Donc, si vous voulez, et c'est d'ailleurs un exercice difficile pour certaines âmes d'oraison. Quand elles sont devant le Saint-Sacrement, elles ne savent pas, elles sont gênées parce qu'elles disent « le Saint-Sacrement est devant moi, donc je ne peux pas me recueillir
en moi ».
En moi. Et en fait, le mouvement psychologique est peut-être différent, mais la réalité théologale est la même. C'est par un acte de foi que je vais rejoindre la présence de Jésus glorieux. Vous savez, un corps glorieux, c'est un corps spirituel qui n'est pas dans un lieu. Donc, on rejoindra à la fois Jésus Eucharistie et Jésus glorieux. On rejoindra Jésus glorieux, voilà. quelle que soit la modalité de sa présence.
Oui, c'est ça. L'exercice pratique de l'oraison, qu'est-ce qu'en dit Thérèse d'Avila?
Eh bien, Thérèse d'Avila dit qu'il faut. Je ne résiste pas à la lecture d'un petit texte où elle dit l'attitude. De détermination très grande qu'il faut avoir. J'aime bien réciter ce texte, c'est un peu radical, c'est un peu Espagne du XVIe siècle, hein, c'est un peu la corrida, là. Mais ça dit tout. Alors je prépare ma lecture, c'est, si vous voulez, une explication à la Thérèse d'Avila de « qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix ».
Ah oui.
Et Thérèse dit, dès le début de la vie d'oraison, il faut y aller à fond. Si on n'y va pas à fond, on ne pourra pas bénéficier du fruit ultime de l'oraison, qui est ces grandes grâces contemplatives et cette transformation dans la charité. Alors je vous le lis. Mmh. Maintenant, pour en revenir à ceux qui veulent suivre cette voie jusqu'au but, qui est d'arriver à boire cette eau vive, je répète que les débuts sont très importants. tout consiste en une ferme détermination très déterminée, de ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne, coûte que coûte, advienne que pourra, à condition d'y arriver. Même si on mourait en route, ou si on manquait de courage devant les épreuves du chemin, même si le monde croulait. Et c'est vrai pour l'oraison, c'est vrai pour la vie chrétienne tout court. Et Thérèse dit ça parce que, comme je le disais dans la première partie de la vie de prière, les frais de la course, si je puis dire, sont d'abord pour l'âme, c'est onéreux, parce que l'Esprit Saint se fait discret. Hein, la théologie classique parle d'un secours général de la grâce. Et puis c'est simplement à partir du début de maturité de la vie d'oraison et de la vie chrétienne, les quatrièmes demeures, hein, où là, eh bien, l'Esprit Saint prend les clés ou le volant, et on le suit, à travers des nuits ou pas, mais on le suit. Et là, c'est pas toujours agréable, mais on fait beaucoup moins d'efforts.
Voilà. Alors Thérèse d'Avila parle d'une ferme détermination. Oui. Dans le cadre de notre école d'oraison et de cet apprentissage de l'oraison, comment ça peut se matérialiser cette détermination?
Par des choses très simples que mon prédécesseur vous a peut-être déjà parlé, vous a dit. C'est-à-dire, il faut prendre une heure donnée, a priori le matin avant que la journée parte. Ce que je conseille, moi, c'est de se lever, de prendre un café ou un thé et d'aller tout de suite faire sa demi-heure d'oraison devant son icône, son crucifix, voilà.
Avant même d'ouvrir son portable, alors.
Avant même d'ouvrir son portable, évidemment.
Surtout.
Évidemment. Et puis, de prendre un texte ou une image pour fixer son attention. Et puis, de se laisser, de se recueillir, de se considérer Jésus et se laisser considérer par lui. Et de dire très régulièrement... je crois que tu m'aimes infiniment, personnellement, tendrement, et je t'aime de tout mon cœur, etc. Voilà. Et puis, et de durer. En fait, il y a la détermination et la persévérance. En fait, en soi, c'est pas toujours très agréable l'oraison, mais la transformation.
Est-ce que ça peut être austère?
Oui. Et puis la sensibilité est purifiée.
Oui.
Donc, de plus en plus, c'est comme dans l'amour humain, de manière analogue. Dans l'amour humain, au début, les choses sont simples. Notre sensibilité est comblée, et puis de plus en plus, c'est je t'aime non pas pour ce que tu me donnes, mais pour ce que t'es, pas pour les gratifications que je reçois de toi. Et dans la prière, c'est un peu ça. Et les grandes nuits de Saint Jean de la Croix, c'est purification de mon égoïsme, sensible souvent. Mm-hmm. Donc persévérance, donc heure fixe, lieu fixe au début, et puis montre, la montre. C'est un quart d'heure, 20 minutes, on se tient à l'heure qu'on a.
Qu'on
a fixé.
Oui.
Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Que j'ai mal au ventre ou non.
Ah oui. Est-ce qu'il y a besoin aussi de se préparer avant l'oraison? Est-ce qu'il y a un cadre particulier à mettre en place?
En fait, ressortir dans l'oraison toutes les images de notre inconscient. Et donc, notre inconscient ou notre mémoire est comme une bibliothèque. Donc si on la nourrit avec des images ou des n'importe quoi qui ne conduit pas à Dieu, eh bien ça ressortira dans l'oraison. Donc il faut une préparation lointaine à l'oraison, mais qui est l'exigence finalement de toute vie chrétienne. Quand je suis marié, épouse, et voilà, eh bien je fais attention de rester en paix avec mes enfants, de ne pas leur faire lire n'importe quoi, et donc moi-même de ne pas lire n'importe quoi, je leur dis de pas trop regarder le portable, et donc je le regarde pas trop moi non plus. Et donc, si vous voulez, la partie sensible de moi-même est sollicitée de manière modérée, et j'engrange pas n'importe quoi. Mmh. Voilà. Et donc, quand j'arrive à l'oraison ensuite, eh bien, ce qui sera mis à jour, eh bien, c'est ce qui a été équilibré par ma vertu dans mon existence.
Mm.
Ou le contraire, ou n'importe quoi, ou,
oui.
Ou entre les deux.
Mm-hmm. Par quoi faut-il terminer sa prière d'oraison?
Nous, traditionnellement, au Carmel, on termine par le Subtum, la plus ancienne prière mariale, la plus ancienne antienne mariale, ce qui est bien de mettre Marie dans le coup. Alors on peut avoir ce compagnonnage avec Marie, ses anges, comme disait le frère Baptiste, pendant l'oraison. Voilà, on peut conclure aussi en beauté avec elle.
Mmh. Un petit exercice concret pour cette semaine. La semaine dernière, il nous fallait choisir un lieu, un temps et une durée pour l'oraison. Oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour cette semaine?
Je vous proposerais de prendre soit une image d'un Christ ou d'une Vierge que vous affectionnez particulièrement, et de la regarder à chaque fois que vous avez une distraction. Au point que, et en le faisant suffisamment souvent, pour qu'au bout de vos nombreuses années d'oraison, après cette école d'oraison, eh bien, vous ayez en tête cette image.
Voilà. Qu'elle soit imprimée.
Et, voilà, et que vous puissiez la rappeler sans le support.
Ah,
voilà.
Oui.
Jusqu'à ce qu'elle disparaisse à nouveau, mais c'est une autre histoire. Et puis, ou bien un texte de l'évangile du jour. Avec cette perspective, non pas d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais juste de prendre contact avec le Seigneur et de vous le représenter devant vous de manière assez fugace, et ensuite, dans un espèce de clair-obscur, de vous laisser considérer par lui, de vous laisser aimer par lui.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils, frère Benoît-Marie.
Merci à vous.
Nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une troisième étape de notre école d'oraison.
Merci.